Premier des salons, salon du loup organisé par Marcia Dumarcos à Flagy en Saône-et-Loire ce samedi et ce dimanche autour d'un musicien né à Dijon que vous connaissez bien, Pierre Dubois. Il s'agit de Claude Balbastre et on ne lui donne pas d'autre prénom.
Non, c'est bien son prénom, Claude, tout simplement, et non pas Claude Bénigne, comme certains écrivent.
Musicien comme papa, et alors le papa s'appelait vraiment Bénigne.
Voilà, il était organiste à Dijon, et son fils a suivi sur ses traces.
Vous qui n'êtes pas musicien de profession, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce musicien, sur lequel vous avez publié un livre au printemps dernier chez l'Harmattan ?
Eh bien, écoutez, plusieurs raisons. La première, c'est un paradoxe, c'est le fait que Claude Balbastre est assez souvent ignoré ou dénigré, ou regardé avec un peu de condescendance de nos jours, mais qu'au XVIIIe siècle, il était considéré comme un très grand virtuose, adulé de l'aristocratie comme du peuple, et loué dans tous les comptes rendus de l'époque que l'on peut trouver. Donc, comment se fait-il qu'un musicien si populaire à son époque soit tombé dans l'oubli aujourd'hui? Et ça m'amène à une deuxième réflexion, c'est que peut-être pour comprendre certains compositeurs, il faut les placer dans leur contexte, dans le contexte social et esthétique de leur temps. Et puis, troisième raison, c'est que je suis organiste amateur. J'ai eu la chance d'être de nombreuses années organiste à Souvigny sur un très bel orgue de Cliquot. Et quand on joue la musique de Balbastre, la musique d'orgue qu'il a écrite sur un instrument de ce type de facture, eh bien tout devient évident et prend sens. Donc, il me semble que on a intérêt à se retourner vers ce compositeur d'autrefois et puis essayer de découvrir l'intérêt de son œuvre.
Cette époque retient surtout les Noëls.
Oui, parce que d'abord ils sont charmants. C'est une grande tradition de la musique du XVIIIe siècle à l'église. Et Balbastre a eu un succès énorme avec ses Noëls, au point même que l'évêque de Paris avait fini par lui interdire de jouer à la messe de minuit parce qu'il y avait trop de remue-ménage dans l'église quand il jouait. Les foules se pressaient pour l'écouter. Mais ça n'est qu'un aspect de sa production. Ce qui est intéressant dans les Noël de Balbastre, c'est que ceux qu'il a publiés étaient destinés au clavecin ou au pianoforte, non pas à l'orgue. Alors que lui, bien sûr, les jouait à l'orgue, à la messe, si vous voulez. Mais il était aussi intéressé par le fait de tourner cette musique vers la sphère privée, la sphère de la musique de chambre.
On n'associe pas toujours son nom à ceci, et pourtant... C'est Olivier Latry qui est à l'orgue. On peut continuer avec cet exemple-là. Balbastre est né à Dijon, c'était en 1724. Il a connu quasiment la période baroque jusqu'à la Révolution incluse.
Oui, puisqu'il est mort très tardivement, en 1799, donc il traverse tout le XVIIIe siècle finalement. Il est contemporain successivement de Händel, plus tard de Mozart, si vous voulez. Donc il couvre toute une longue période et s'adapte aux différents styles pendant toute cette période. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que du coup, il joue plusieurs instruments. Il commence au clavecin, et il passe à l'orgue, et puis il passe au pianoforte ensuite, et enfin il contribue à la création d'un instrument extraordinaire qui s'appelle le pianoforte organisé, c'est-à-dire le mélange d'un pianoforte et de jeux d'orgue. Et donc cette évolution dans le temps s'accompagne d'une évolution organologique, si vous voulez.
Alors, il y a un autre nom de musicien qu'on aime beaucoup à Dijon, c'est Rameau. Même s'il n'y est pas resté très longtemps, il va côtoyer Rameau de près.
Oui, il est l'un des disciples de Rameau. C'est Rameau qui l'accueille à Paris quand Balbâtre monte à Paris, où il va avoir des fonctions prestigieuses. Et Rameau lui confie même la transcription de l'ouverture de Pygmalion pour le clavier que Balbâtre effectue et qu'il joue à la cour avec succès et qu'il jouera ensuite au concert spirituel de nombreuses fois avec succès.
Le concert spirituel, ancêtre évidemment du concert spirituel que nous connaissons aujourd'hui, dirigé par Hervé Niquet.
Oui, Hervé Niquet a repris le nom pour son ensemble avec succès. Mais évidemment, le concert spirituel est une institution très importante dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle à Paris. Au moment de la relâche de l'opéra, on y donnait des concerts avec des chœurs, des concertos, de la musique d'orgue. Et Balbâtre a été titulaire de l'orgue construit par Miko expressément pour le Palais des Tuileries, pour le concert spirituel.
Est-ce qu'on peut dire de Balbâtre qu'il est un musicien des Lumières ? C'est la grande époque, c'est le siècle des Lumières, comme on le dit souvent.
Oui, je crois tout à fait, d'abord chronologiquement, comme vous voulez de le rappeler, parce que c'est dans, à cette époque-là qu'il existe et qu'il compose et qu'il joue, mais aussi dans son esprit, c'est-à-dire cet esprit d'ouverture, cette recherche d'un hédonisme, d'une sensualité dans la musique, de quelque chose d'assez lumineux et joyeux, et aussi cette façon de se tourner vers des horizons nouveaux en permanence.
Est-ce que c'est un musicien un peu de transition entre des périodes et qui fait évoluer les périodes, ou est-ce que c'est un musicien qui s'adapte, voire qui prend le sens du vent, aussi bien musicalement que peut-être même politiquement?
Alors c'est un petit peu tout ça, à la fois, parce que il est novateur pour certaines choses. J'ai parlé tout à l'heure de son invention du pianoforte organisé, mais dès son premier livre d'orgue dit de Dijon, qui est manuscrit, il compose un concerto pour orgue. Alors il appelle ça concerto, mais c'est pour orgue solo, hein. C'est pas le concerto comme Handel avec un orchestre. Et ce concerto pour orgue, c'est le premier en France composé sous cette forme-là. Donc là, il est vraiment novateur. Et puis, il sera novateur aussi dans le fait d'être l'un des premiers à utiliser et à introduire sur la scène du concert le pianoforte. Donc, il n'est pas suiviste uniquement. Et alors, vous parlez de l'aspect politique. Alors oui, certainement, lui qui a été choyé et adulé par l'aristocratie, il réussit à se ménager des protections au moment de la Révolution française. Il est chargé de l'inventaire des orgues de la ville de Paris, de choisir ceux qui doivent être protégés. Et de la sorte, il n'est pas inquiété, alors qu'il avait beaucoup de liens étroits avec la noblesse.
Mais est-ce qu'on peut dire que, grâce à lui, d'une certaine manière, des instruments ont été préservés ?
Indiscutablement, oui. Il a préservé à l'époque des instruments très importants, comme celui de Saint-Roch, dont il était titulaire, ou celui de Notre-Dame, dont il était également l'un des titulaires. Et donc, il a vraiment contribué à sauver des instruments très précieux.
Alors Pierre Dubois, donc on a dit Marcia Di Marco jouera la musique, vous allez nous présenter votre récit de manière beaucoup plus détaillée qu'on peut le faire ici. Comment allez-vous vous organiser alors ?
On a prévu trois tranches, présentation suivie de la musique, et puis de nouveau une présentation de certains éléments suivie de la musique, enfin trois fois comme ça, et donc il y aura une alternance parole-musique, avec quand même une prédominance de la musique, j'espère.
Alors est-ce que votre but au fond, c'est pas un peu de réhabilitation ? notabilité, Claude Balbâtre.
Oui, je n'ai pas la prétention de dire que Balbâtre est le plus grand génie de la musique du XVIIIe siècle, certainement pas. Mais c'est un musicien tout à fait honorable, qui fait très bien son travail et qui illustre surtout vraiment les tendances esthétiques, le goût de son époque. Et donc, à ce titre au moins, il mérite notre attention.
Une soirée à Chanteloup, donc c'est... Alors, c'est pas en soirée, hein, c'est dans l'après-midi ou en matinée, comme on dit au théâtre. C'est ce samedi et ce dimanche, c'est à 16h, c'est à Flagy, en Seine-et-Loire. Et puis alors, il y a ce livre tout de même dont on peut rappeler le titre, Pierre Dubois, je vous laisse le faire.
Claude Balbâtre, un virtuose au siècle des Lumières, et c'est publié chez L'Armatant.